Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec toute l'équipe de la Libre Antenne, Fabrice à la réalisation, Amandine et Hassan au standard. On est ensemble pour 2 heures de confidence et de complicité, 2 heures pour se parler de nous et de la vie. Si vous souhaitez partager votre expérience, venir parler d'un problème qui vous préoccupe, nous dire ce qui vous semble insupportable, ou si justement vous avez surmonté l'insupportable et que vous en êtes sorti plus fort, plus grand, appelez-moi au 3921, votre témoignage m'intéresse. Vous savez que pendant ces 2 heures de libre antenne, on peut tout se dire et surtout, on peut tout se dire en toute bienveillance. Trop souvent, on vit dans notre tête à l'intérieur de nous, ressassant nos soucis, nos échecs passés, les catastrophes à venir. La douceur d'une oreille bienveillante nous ramène dans le monde présent et nous aide à être de nouveau en phase avec la réalité. Alors venez prendre la parole ce soir en appelant le 3921. Entrez dans la conversation aussi par SMS, si vous le voulez, en faisant le 739-21 et en commençant par le mot nuit, ou même par mail libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je vais prendre ce soir, c'est celui de Sophie qui a besoin qu'on la booste un peu. Elle va nous expliquer pourquoi dans un instant. Et c'est donc avec vous qu'on commence, Sophie. Bonsoir.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, vous avez besoin qu'on vous regonfle un peu le moral, qu'on vous donne de la motivation, c'est ça? Racontez-moi un petit peu.
Ben, en fait, actuellement, c'est vrai que je suis en train de suivre une formation de conseillère relations clientèle à distance dans un centre pour déficients visuels. C'est vrai que pour trouver mon stage, il a fallu que je pose une vingtaine de lettres de motivation. Malheureusement, j'ai reçu 7 refus, une dizaine de lettres sans réponse, et le reste, ben, ils n'ont même pas pris. Le reste, ils m'ont donné des refus, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément su le
pourquoi.
Motif de.
Ouais. Ça, je crains que ce soit un peu partout comme ça.
Oui, après, ben, c'est vrai que moi, en plus, j'ai un autre. Deux avantages, c'est qu'entre guillemets, je suis non-voyante. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire peur aux entreprises. Mais là, en l'occurrence, ne serait-ce que pour ce pauvre stage, c'est un peu incompréhensible, parce que c'est vrai que c'est le centre, en fait, qui fournit mon matériel. Donc, ça n'aurait pas été justifié. Bon, finalement... À force d'avoir bien insisté, j'ai trouvé un stage, mais c'est dans une association. Alors que, bon, c'est vrai que dans un centre d'appel, j'aurais été directement plongée dans le bain, dans le rythme, quoi. Tandis que là, c'est vrai que dans l'association, je sais pas. En fait, j'ai un peu comme l'impression que quand on fait pas le travail, c'est les autres qui le font pour nous, et que par certains côtés, les cadences, c'est moins intense. Et surtout, je me demande, mais si pour trouver un stage, si on a autant de mal, est-ce que ça recrute vraiment après, quoi ?
Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous avez peur d'être un peu trop assistée dans le cadre de l'association, c'est ça ? Ce ne soit pas comme des conditions réelles ?
Il y a un peu ça, puis il y a aussi le fait que... Enfin, je ne sais pas, j'ai un peu de mal. Pour moi, les cadences, ce n'est pas les mêmes, déjà, et...
Mais comment est-ce que vous le savez ? Vous avez déjà travaillé ailleurs ?
Non, j'ai fait 2 stages d'observation pour ce métier-là, mais c'est vrai que les cadences étaient assez intenses quand même.
Donc, que je vous suive bien, hein, Sophie, là vous avez été en observation, vous avez trouvé que c'était assez soutenu, et là vous êtes en formation, vous trouvez que pour l'instant c'est pas au niveau ?
Je porte aucune marque de jugement là-dessus, mais malheureusement, je trouve qu'on n'est pas suffisamment accompagné, suffisamment épaulé, qu'on n'a pas suffisamment de retour sur la satisfaction ou l'insatisfaction qu'on donne. On fait pas suffisamment de points, c'est pas.
Cette formation, vous l'avez commencée il y a combien de temps ?
C'était en août 2018.
Ah, donc ça fait déjà un petit moment quand même. C'est supposé s'arrêter quand ?
C'est en juillet. On a les résultats de l'examen en juillet.
D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec d'autres gens, d'autres jeunes femmes qui ont fait cette formation par exemple ? Savoir sur quoi ça a débouché pour elles ?
Non, avec ceux qui sont en poste, ça ne s'est jamais réellement produit. Enfin, moi, je parle avec celles de ma promo qui font la formation. En fait, l'une, elle est très contente, elle bosse dans. Elle travaille pour un complexe immobilier. Et l'autre, elle travaille pour une autre association de non-voyantes. Mais elle, je reconnais que je la parle pas plus souvent que ça. Donc, je ne sais pas du tout comment elle progresse. Mais par certains côtés, ce n'est pas grave. Parce que, comme elle dit ma formatrice, quand on fait une formation, on ne démarre pas tous du même départ et on n'arrive pas tous au même...
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, pour la suite ? Parce qu'elle vous connaît bien, elle vous suit depuis plusieurs mois.
La formatrice, déjà, mi-février, j'avais envisagé de laisser tomber la formation parce que j'ai déjà un ami qui a fait la même formation que moi et lui, ça fait 4 ans qu'il n'arrive pas à trouver d'emploi. Et d'ailleurs, ma propre tutrice de mon stage, elle a fait une formation équivalente à la mienne. Ça fait 9 ans qu'elle est sans formation aussi, donc sans emploi aussi, donc je me demande.
Ah oui, ça c'est pas motivant, mais à ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation-là ?
Parce qu'il y a 4 ans, j'avais fait une remise à niveau pour kiné, et là par contre, bon, c'est vrai qu'à la base, je n'ai jamais été très à l'aise en biologie et en physique, et il n'y avait que de ça, donc ça me correspond. Du coup, c'est vrai que cette formation de conseillère relation client à distance, elle me correspondait davantage, sauf que si j'avais su que ça ne recrutait pas derrière...
Oui, c'est peut-être la question qu'il fallait se poser avant, mais vous êtes toute jeune, Sophie, non ? Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Donc vous êtes en plein questionnement sur la suite, et je crois que l'essentiel, c'est quand même de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir ? Vers quoi vous voulez aller aujourd'hui ? Avec la petite expérience que vous avez déjà depuis quelques années ?
Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'ai jamais été vraiment faite pour les études. Enfin, je veux dire, j'ai mon bac à 23 ans. Après, j'ai traversé quelques années où justement, j'ai profité pour travailler un peu mon autonomie du fait de ma non-voyance.
Vous êtes non-voyante depuis la naissance ?
Oui.
D'accord. Ce qui est compliqué, c'est que comment voulez-vous vous diriger vers quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez ? La première question à se poser, ce n'est pas une question d'avoir fait des études ou pas, ou d'être doué pour les études ou pas, c'est savoir ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire dans la vie. Ça, c'est la question de base. Pour prendre une direction, il faut savoir où on a envie d'aller. Parce que déjà, quand on sait ce qu'on veut, on n'est pas forcément garanti d'y arriver, mais quand on ne sait pas, on est sûr de jamais y arriver.
C'est indiscutable. Après, c'est vrai que du fait de ma cécité, ça me ferme beaucoup de portes aussi, quoi. Je veux dire...
Mais attention à ça, Sophie. Souvent, je le dis, quand on est le nez sur une porte fermée, on ne se rend pas compte qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes à côté. Hein. Avec les contraintes qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Qu'est-ce qui vous intéresse ?
En loisir, j'aime bien la musique, mais c'est qu'un loisir. Je sais que du loisir au métier... voilà, puis je veux dire... moi, c'est vrai, l'instrument dont je joue, j'aime bien jouer... 2-3 heures par semaine. Or, c'est vrai que si je veux en faire mon métier, c'est pas 2-3 heures par semaine, c'est plutôt 25-30 heures par semaine. Quoi. Enfin, c'est...
Vous ne pourriez pas être prof ?
Pas du tout.
Non, on n'est pas
niveau. Non, c'est pas question de niveau, je suis pas faite pour enseigner, j'ai jamais...
Mais je parle de musique, je parle de musique.
Si, mais c'est un rapport avec les êtres humains que je n'aime pas, en fait.
Donc, vous avez plutôt envie de travailler dans un endroit un peu isolé, pas en frontal avec des clients, par exemple, ou avec des gens.
Non, c'est vrai que j'aime bien poser mes mots, bien réfléchir à ce que je fais, et surtout risquer de ne rien regretter aussi.
J'ai pas entendu.
Regretter.
Ne rien regretter. Oui, mais j'ai l'impression qu'à force de ne rien vouloir regretter, vous n'avancez pas beaucoup, vous hésitez beaucoup. Et cette hésitation vous pèse aussi aujourd'hui, parce que vous avez pris une direction et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas forcément dans la bonne direction.
De direction, je n'ai pas forcément pris. Enfin, je veux dire, le seul diplôme que j'ai actuellement, c'est un bac ES. Malheureusement, avec un bac ES, on ne fait rien. C'est pas comme avec un bac pro, quoi.
C'est en fait, vous avez pris cette formation par défaut, si je comprends bien. Parce que c'est la seule qui vous a dit oui et parce que vous avez pensé qu'il y aurait des débouchés derrière.
Ben ouais, enfin, je veux dire, moi j'ai obtenu mon brevet, déjà c'était en 2008, après j'ai obtenu le bac en 2013, c'est vrai qu'entre-temps ça a été assez espacé aussi. Et malheureusement, de 2013 à 2018, j'ai aucun diplôme, quoi. Donc, ouais, là je pense que pour la suite, ça va être très compliqué. Ouais. Va falloir...
Est-ce que vous êtes en contact avec des associations pour non-voyants? Parce qu'on a énormément de non-voyants qui nous appellent et qui régulièrement nous parlent des assos qui les aident, qui les conseillent, qui les orientent.
Ben, là, celle où je fais mon stage, ils constituent des binômes pour les marches, ils constituent des binômes pour la lecture, pour les démarches administratives, mais ils n'aident pas forcément pour l'emploi. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres associations possibles ou accessibles pour vous, mais il me semble qu'il y en a quand même plusieurs. J'ai un petit souci de SMS, là, j'arrive pas à les avoir ce soir pour l'instant, en tout cas sur mon écran, donc je ne peux pas vous dire s'il y a des gens qui envoient des messages pour vous pour l'instant, malheureusement. Mais je sais de mémoire qu'à chaque fois qu'on a des non-voyants qui appellent, il y a régulièrement des tas de gens qui parlent de différentes associations. Et je me demande si peut-être vous n'avez pas omis de frapper à une porte qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider dans ce domaine.
Là, je ne saurais pas dire. Enfin, moi, je sais juste que quand j'avais envisagé de laisser tomber ma formation aux vacances de printemps, J'en ai parlé à l'association qui m'épaule pour le travail. Ils m'ont dit « Ah, mais surtout, Sophie, ne faites pas ça. Enfin, si jamais vous nous faites ce coup-là, nous tentons de décrocher des postes. Et s'il n'y a personne pour les occuper, nous nous serons battus pour rien. » Donc, je poursuis, mais sans être sûre d'être diplômée à la fin, je...
Alors, il y a deux choses dans ce que vous me dites. D'abord, je peux comprendre, et je pense que vous aussi, ils se sont aussi investis en vous formant. Maintenant, une formation sans être sûr d'avoir un boulot à la fin, ça n'a rien à voir avec la cécité, c'est partout. Il y a énormément de gens qui font des formations, qui font des stages, qui sont même en période d'essai dans des boîtes et qui ne sont pas gardés. On n'a jamais la certitude que ça va vraiment fonctionner derrière. Personne ne peut vous garantir aujourd'hui, surtout aujourd'hui, que vous allez décrocher un boulot et que ce sera un CDD derrière, un CDI derrière et que ça marchera. Ça, l'incertitude, elle est partout. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si vous allez au bout, est-ce que ça va vous convenir si on vous propose un travail comme ça?
Bien sûr. Ah. Ma foi, si je correspond aux critères, pourquoi pas? Oui, bien sûr.
Parce que là, vous êtes quand même à quoi? 2 mois de la fin?
C'est ça.
Et vous verrez bien ce qui se passe derrière. En fait, vous êtes en train de vous angoisser en imaginant des scénarios négatifs. Sans savoir ce qui va se passer réellement.
Ben, ce qui va se passer, c'est... Là, je suis dans un centre pour déficients visuels. Après, malheureusement, du fait que je n'ai pas commencé à chercher... Mais l'appartement, à la rigueur, c'est secondaire. Parce qu'avant d'avoir l'appartement, il aurait fallu que j'aie le travail pour rester sur... où que ce soit, d'ailleurs. Mais là, du coup, il y aura forcément une période où je devrais de nouveau retourner dans l'inactivité.
Pourquoi forcément? Si ça s'enchaîne avec un travail à la rentrée?
Ben, ça veut dire qu'il y aura la période du 13 juillet à la rentrée.
Et si ça s'enchaîne en juillet? Pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas que ça puisse bien se passer?
Je ne sais pas. Une de mes éducatrices disait que j'avais la fâcheuse tendance à toujours voir le verre à moitié vide, mais...
Ben oui. Et moi, j'irai plus loin. Soyez vigilante, parce qu'on va toujours vers ce à quoi on pense. J'avais cette conversation avec quelqu'un hier. On attire aussi ce qu'on dégage. Et je comprends qu'on soit réaliste, qu'on soit vigilant, que quand on a souffert dans la vie, on soit un petit peu prudent, on va dire. Mais... c'est important aussi de rester positif et de croire à ce qu'on veut. Donc vous êtes quand même déjà quasiment à la fin d'un stage, donc vous avez déjà beaucoup donné et beaucoup appris. Vous êtes à 2 mois d'une issue, attendez de voir ce qui se passe. On n'est pas à l'abri que ça se passe bien aussi. Vous, votre objectif idéal, ce serait quoi?
Déjà avoir un diplôme pour avoir quelque chose de plus défendable sur un CV, parce que là, d'accord, c'est vrai que quand je vais postuler avec le dernier diplôme de 2013, ça fait Et les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis, quoi.
Okay. Enfin, c'est... Ok, donc ne regardez pas derrière, regardez devant, Sophie. Donc devant, ça serait le diplôme en juillet, c'est ça?
Oui, déjà.
Objectif numéro un, mettez-vous ça en tête. Comme un grand panneau, vous voyez, un grand panneau qui clignote. Je veux ça, c'est mon objectif, je pense à ça, c'est tous les jours je me motive pour ça. C'est objectif numéro un. Objectif numéro deux, trouver le plus rapidement derrière un boulot.
Si possible, ça serait l'idéal.
Enlever le conditionnel.
Oui.
C'est possible et ce sera l'idéal. Mais je vous assure, c'est comme ça qu'on se programme, vraiment à force. Et tous les jours. Levez-vous le matin en vous disant, c'est une belle journée qui commence. Je me programme pour réussir mon examen et je me programme pour avoir un boulot, un bon boulot derrière. Et si j'ai bien compris, objectif numéro 3, quand le boulot est signé, l'appartement.
Oui, bien sûr, ça serait aussi l'indépendance importante.
Ça serait ou ça sera?
Ça sera important.
Voilà. Si vous saviez à quel point la manière dont on se parle est importante, la manière dont on pense est importante, on se programme inconsciemment pour tout ça. Si vous vous levez le matin en disant « c'est encore une journée pourrie qui va commencer », il y a de fortes chances qu'elle le soit. Je ne vous dis pas qu'en vous levant le matin et en vous disant « c'est une belle journée qui commence », ça sera tout de suite magnifique, mais si vous apprenez cet exercice-là tous les jours, croyez-moi, ça finit par changer les choses.
Vous voyez,
attendez, juste avant que je perde le fil de ce que je voulais vous dire. Vous voyez la différence déjà quand vous me parlez tout à l'heure et que vous parlez de tout ce qui n'allait pas. Vous étiez concentré sur les doutes, les inquiétudes, les machins. Vous aviez une toute petite voix, toute presque renfermée. Et là, quand on parle des choses qui vous plaisent, on sent déjà qu'il y a une petite truc qui pétille davantage. Quand on est positif, on se sent mieux et on va vers du positif. Voyez comment vous vous sentez quand vous vous concentrez sur le négatif et comment vous vous sentez quand vous vous concentrez sur le positif.
Oui. Est-ce qu'il y a des livres qui existent pour apprendre une autre méthode de pensée, en fait?
Attendez, pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu.
Est-ce qu'il existe des livres pour apprendre une autre, comment le penser positif, en fait?
Il y en a un paquet. Il y en a un paquet en livre audio aussi. Je vous conseille, il y en a un que je conseille très souvent, que j'aime beaucoup, c'est le livre de Bertrand Piccard. Vous savez que c'est celui qui a, l'aventurier qui a fait le tour du monde avec Solar Impulse, l'avion énergie solaire, qui est psychiatre, psychologue et hypnothérapeute. Vous voyez qui est Bertrand Piccard, l'aventurier?
Je chercherai sur Internet.
D'accord. Bertrand Piccard, son livre s'appelle « Changer d'altitude ».
D'accord.
Et si vous êtes intéressé par ça et si vous voulez aller encore plus loin, c'est un autre livre dont j'ai parlé il y a quelques soirs, qui s'appelle « Le placebo, c'est vous ». Et ça, je sais qu'il existe en audio. « Le placebo, c'est vous » de Joe Dispenza, dans lequel, de manière médicale et scientifique, on explique à quel point notre cerveau est puissant et à quel point nos pensées changent les choses, même dans notre corps.
D'accord, je lirai ce livre.
Changer d'altitude et le placebo, c'est vous. Et vraiment, programmez-vous pour tout ce qui est positif, si vous voulez vraiment que ça vous arrive.
D'accord.
Je sais que, malheureusement, et on est tous pareils, on a tendance à ruminer les choses qui nous font du mal. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en les ruminant, on les programme pour qu'elles reviennent.
C'est un peu une forme de cercle vicieux.
Eh oui. Alors, j'ai une métaphore, mais qui ne vous convient pas, parce que j'imagine bien sûr, en tant que non-voyante, vous ne conduisez pas, mais pour les voyants, je leur dis souvent, c'est exactement comme en voiture, quand vous êtes à la montagne, on vous dit ne regardez pas le ravin, sinon vous y allez direct. En moto, on dit aussi, quand on veut faire un virage de loin, on regarde droit devant, sinon si on regarde sur le côté, on tombe. Et bien dans la vie, c'est pareil, on va là où on regarde. Alors symboliquement, on va là où on pense, ça n'a rien à voir avec la vue, hein, quand je dis là où on regarde. C'est là où on va vraiment vers ce qu'on pense et vers ce qu'on croit. Donc croyez chaque jour que vous méritez le meilleur, pensez au positif et programmez-vous pour y aller direct. Vous avez 26 ans, vous avez toute la vie devant vous pour que ça marche.
D'accord, merci beaucoup en tout cas.
Promis Sophie?
Oui.
Et puis en septembre, vous me rappelez pour me raconter comment tout ça s'est bien passé.
Entendu, très bien.
Je vous embrasse.
Au revoir, merci pour tout.
Au revoir.
Sabine.
Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et suite à l'appel de Sophie, on a Christian qui a souhaité réagir. Bonsoir à vous, Christian.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui. Alors, moi, c'est pour un témoignage concernant ma carrière professionnelle en rapport avec mon handicap. Et quand j'ai une rétinite pigmentaire de naissance. Et quand j'avais 18 ans, l'ophtalmo qui me suivait m'avait conseillé de ne pas dire que j'avais une rétinite pigmentaire, sinon je risquais d'être mis au rencard au niveau professionnel. Donc j'ai réussi à faire une carrière d'infirmier en psychiatrie en cachant, en dissimulant mon handicap visuel.
Comment c'est possible ça?
Comment c'est possible? J'avais, avec correction, j'arrivais à 5 et 6 dixièmes avec correction, puisque j'ai une rétinite pigmentaire plus une myopie importante. Mmh. Et avec les lunettes, j'arrivais à 5 et 6 dixièmes, c'est-à-dire c'est le maximum que je pouvais avoir avec correction. Sans correction, j'avais moins de 1. Quoi. Donc,
et il n'y a pas des collègues qui s'en sont rendus compte dans des contextes précis?
Pas vraiment. Justement, c'est toute l'ambiguïté, c'est ils pensaient que j'étais myope. Mmh. Alors en fait j'étais myope effectivement, mais en plus de la myopie j'avais une difficulté champ visuel réduit, difficulté à voir s'il n'y avait pas assez de lumière, les couleurs, etc. Vous voyez, mais bon, à partir de là, quand on est handicapé, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte et on compense. Mmh. On a d'autres, on utilise d'autres techniques pour. On apprend par cœur les choses.
Vous développez d'autres canaux, d'autres compétences.
Eh ben voilà, on est dans une société où c'est la vue qui domine, mais quand c'est la vue qui domine, on laisse de côté les autres sens.
On les développe moins, c'est ça.
Et voilà, on les utilise pas. Donc ils sont un peu. C'est tout le paradoxe qu'on a, c'est que quand c'est la vue qui est le sens primordial, principal, les autres sens sont mis un peu au rencard et donc on ne les développe pas. Mais quand vous êtes malvoyant, vous développez tous les autres sens et ce n'est pas la vue qui est le sens dominant.
Bien sûr.
Mais finalement, vous arrivez à vous déplacer parce que vous connaissez par cœur les lieux, vous avez un petit GPS dans la tête, vous les avez appris par cœur. Vous voyez,
vous développez, j'imagine, une très grande sensibilité aussi au son.
Exactement, et puis à la posture des gens. Donc moi, j'ai travaillé en psychiatrie et j'aurais été incapable de faire des soins techniques qui demandaient une vision très fine. Mais par contre, j'étais capable de percevoir les postures. Par exemple, les gens, quand ils arrivent dans une pièce, vous voyez à leur posture, s'ils sont, vous sentez, vous voyez s'ils sont un peu renfrognés, s'ils ont la tête dans les épaules, s'ils marchent avec un peu plus de... C'est ce genre de choses que vous percevez plus que les gens qui vont regarder la couleur de leurs yeux, les taches sur les vêtements. Vous voyez qu'ils vont voir des détails visuels, alors que moi, je voyais le comportement un peu plus général, dire les postures.
C'est comme si vous aviez développé une hypervigilance à tout le reste, quoi.
Exactement, ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, par rapport à Sophie, le problème, c'est que la société est très hypocrite. Je témoignais pour ça, pour dire que donc, l'ophtalmo m'avait dit qu'on n'a pas intérêt à dire qu'on a une rétinite, sinon je n'aurais rien fait de ma vie.
Mais vous pouvez le cacher, mais d'après ce que j'ai compris, Sophie, elle est totalement non-voyante, donc elle ne peut pas faire son
voilà, mot. Non, mais Sophie est totalement non-voyante, mais elle n'a pas vraiment le choix. Quand vous êtes non-voyant, vous êtes soit standardiste, soit vous êtes kinésithérapeute, soit vous êtes prof de musique. Je veux dire, les portes se ferment. Elles ne sont pas ouvertes, comme vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est
facile. Il y en a quand même qui s'ouvrent, Christian. Hein. On peut pas lui dire à 26 ans que tu t'es pas
évidemment, il y en a quelques-unes qui s'ouvrent, mais pas beaucoup. Non, mais on ne peut pas lui dire. Mais la réalité, elle est beaucoup plus cruelle que ce que vous voulez lui faire espérer. Il ne faut pas lui donner de faux espoirs. La réalité, le handicap, par exemple, dans mon travail, je vais vous dire, au moment où ma vue s'est dégradée, puisque c'est dégénératif, j'ai fini par me dire, je vais aller dire à la médecine du personnel que j'ai un problème de vue, je vais lui amener mes documents MDPH, reconnaissance de travailleur handicapé, etc. etc. Et je suis rentré dans son bureau, j'étais quelqu'un de normal, je suis sorti, elle m'a pris par le bras pour m'accompagner jusqu'à la porte de son cabinet. Vous voyez, en l'espace d'un quart d'heure, j'étais devenu quelqu'un de normal à quelqu'un complètement handicapé. C'est complètement paradoxal. En un quart d'heure, j'avais changé complètement de statut, alors que j'étais le même. En fait, pour moi, j'étais le même. J'avais juste
dit,
je vais arrêter de jouer. Je vais arrêter de jouer de faire semblant, de tricher, quoi, parce qu'en fait, c'est une forme de tricherie. Hein.
Mais tous les gens qui ont un handicap sont les mêmes. Moi, j'ai toujours tendance à dire, un handicap, c'est juste quelqu'un qui a pas quelque chose en moi, mais qui a quelque chose en plus.
Oui, enfin, ça, c'est le côté. Vous voulez valoriser le côté positif, mais la réalité, elle est beaucoup plus cruelle que ça. Elle est beaucoup plus cruelle. par exemple, et en même temps, dans le même temps, alors c'est là où moi j'ai eu beaucoup de rancœur par rapport à mon milieu professionnel, parce que j'ai quand même travaillé plus de 30 ans en tant qu'infirmier psychiatrique, j'avais des bonnes appréciations de mes cadres, etc., etc. Le jour où j'ai déclaré mon handicap officiellement, c'est-à-dire que j'ai arrêté de le dissimuler, ça a été fini, quoi. J'ai été mis au rancard, c'était rester en maladie, c'est dangereux, les malades sont dangereux, vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez être agressé. Et en même temps, dans le même temps, mon employeur faisait une campagne pour l'intégration en milieu professionnel des handicapés.
Oui, c'est toute l'hypocrisie du système.
Ah, c'est pour ça que je l'appelais, c'était pour signaler l'hypocrisie. Et beaucoup de gens se valorisent, se font valoir sur le dos des handicapés. Mais c'est un discours faux. C'est-à-dire que si on dit, même les hommes politiques, etc., etc., ils annoncent dans leur programme des...
Ne bougez pas trop, Christian, parce que je vous perds régulièrement, là.
Ah, excusez-moi.
Ah oui, ouais, voilà.
Ils annoncent c'est ce côté hypocrite par rapport au handicap. C'est, le handicap, ça sert aussi à se faire valoir.
Oui, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, quoi.
Eh bien, bon, mais en même temps, chaque fois qu'on dit « je m'occupe d'un handicapé », c'est bien, vous êtes gentil, vous êtes c'est généreux, etc. Alors qu'en fait, ça sert surtout à se faire valoir. Bénévole, voyez, mais dans la réalité, le handicap reste quand même quelque chose de très lourd. Et on aime bien les handicapés quand ils font des exploits, mais on les aime pas à proximité de soi. Par exemple, je me rappelais le monsieur qui est, je sais plus comment il s'appelle, qui a perdu les quatre membres et qui a traversé relié des continents à la nage. Bon, là, tout le monde est admiratif devant lui, sauf que il y a pas longtemps, je discutais avec une de mes voisines qui est également infirmière en psychiatrie. Et elle était anxieuse parce qu'elle avait un de ses collègues de travail qui était malentendant. Donc, il avait un appareil auditif. Et elle se disait, je ne suis pas en sécurité quand je travaille avec lui. Si jamais je me fais agresser, il ne va pas entendre le PTI. Le PTI, c'est la protection des travailleurs.
L'alarme, là, l'alarme qui est arrivée à la ceinture.
C'est une alarme qui se déclenche quand vous êtes en position horizontale ou vous pouvez appuyer sur le bouton pour signaler que vous êtes agressé. Vous voyez, donc... rien que le fait qu'elle ait un handicapé dans son environnement, imaginez tout de suite qu'il n'allait pas être apte à répondre en cas d'agression, alors qu'elle n'a jamais été agressée par les patients. En même temps, c'est du fantasme. Vous voyez,
est-ce que vous ne croyez pas que le problème vient toujours de la méconnaissance?
Tout à fait. C'est bien ça.
La peur vient toujours de l'inconnu.
La peur du malade mental, la peur du handicapé, c'est un esprit étriqué.
La peur de la différence, la peur de la différence, on la retrouve partout. Hein. On a peur des étrangers, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ose espérer quand même que de moins en moins, c'est mon côté dramatiquement optimiste.
Vous le verbalisez bien, c'est dramatiquement optimiste. Mais non, la réalité, elle est horrible. Elle est horrible parce que, moi j'ai triché. Et alors, c'est en ça où, en même temps, si vous voulez arriver à quelque chose, il faut tricher. Donc c'est quand même assez, vous ne pouvez pas jouer franc jeu. C'est quand même assez dommage. Alors qu'il y a un discours complètement qui valorise les handicapés, l'intégration en milieu professionnel, etc., etc. Mais ça, c'est du pipeau, comme je dirais. La réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ou alors, dans les milieux professionnels, on va mettre le paquet sur un poste.
Mais c'est la vitrine, quoi. Ouais.
C'est la vitrine. Et à côté de ça, on va mettre une dizaine d'autres personnes handicapées. Mais on va dire, regardez ce qu'on fait pour les handicapés. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on fait pour un handicapé. Et à côté de ça, on met au rebut des dizaines et des dizaines de gens qui ont des problèmes. Vous voyez, dans mon milieu professionnel, c'était ça. Le problème, c'est qu'il y a des tas de gens qui avaient 20, à 25, 30 ans, 35 ans, avaient des problèmes de dos notamment, et qui se retrouvaient en longue maladie parce qu'il n'y avait pas de poste adapté.
Comment ça se passe pour vous depuis que vous avez annoncé ça?
Ça se passe. C'est une catastrophe. C'est que, longtemps, j'ai hésité à dire que j'avais. Parce que le problème, c'est que c'est très douloureux. C'est-à-dire que moi, j'ai continué à travailler le plus longtemps possible. Et puis, quand j'ai eu plus de contraintes financières, je me suis dit, maintenant que j'ai plus de contraintes financières, je peux peut-être davantage jouer franc jeu. Vous voyez, et en plus, alors dans la réalité, ma vue avait baissé. C'est vrai que j'ai été opéré d'une cataracte précoce, etc. Et donc j'avais comme et dans la réalité, je commençais à me dire, s'il y a un patient qui a un problème, je vais être en difficulté, je vais pas voir les situations, je vais être un peu gêné. Et en même temps, je veux dire, c'est à double tranchant. J'ai des anecdotes où le fait que je ne voyais pas m'a permis de ne pas dramatiser les choses. Par exemple, je vais vous donner une anecdote qui m'a beaucoup amusé. Moi, c'est que un soir, j'arrive au travail avec une collègue aide-soignante et il y avait un patient qui était alcoolisé, qui était rentré juste avant les transmissions, donc au changement d'équipe. Et donc, l'équipe d'après-midi, elle n'a pas eu le temps de tout faire. Donc, il nous avait dit, ben voilà, alors nous, on va le voir. Dès après les transmissions, on va dans sa chambre, on va le voir, on discute avec lui. Et à un moment donné, il sort un couteau. Et ma collègue, voyant qu'il sort un couteau, elle fait les trois pas en arrière, elle sort dans le couloir en reculant. Et moi, j'avais le fait de mes difficultés, je n'avais pas vu que c'était un couteau. Oui. Donc, je suis resté comme placide. J'ai pas réagi en appuyant sur mon PTI, en appelant les secours. Voilà, c'est ce genre d'anecdote qui fait que finalement, il a redonné son couteau tranquillement parce que je n'avais pas dramatisé les situations en ayant perçu le couteau dans l'immédiat.
Finalement, votre sérénité involontaire lui a fait du bien. Quoi.
Voilà, vous voyez. Et au lieu d'avoir... Parce que si j'avais vu qu'il avait le couteau, si j'avais eu peur, j'aurais appuyé sur mon PTI, les renforts seraient arrivés, il aurait été maîtrisé, attaché, mis en isolement. Vous voyez, c'est... du fait de sa dangerosité potentielle, on va dire.
On aurait sorti l'artillerie, là.
L'artillerie lourde. Oui, il avait un couteau, il sortait son couteau, donc menace, appel à renfort, vous voyez, c'est l'engrenage, quoi.
Mais à l'inverse, est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé quelquefois dans des situations où, justement, vous vous êtes mis en danger ?
Non.
Jamais ?
Encore une fois, c'est le côté, voilà, sincèrement, il y a plus de patients psychiatriques sont victimes d'agressions et de violences que de patients psychiatriques qui sont responsables par rapport à l'agression dans la vie courante. Ils sont plus victimes d'agressions eux-mêmes que d'eux-mêmes responsables d'agressions. Il n'y a pas plus de... Si vous regardez les statistiques, les malades psychiatriques ne sont pas plus dangereux.
On vous perd, là, Christian, attention.
Ah oui, je ne sais pas, je bouge pas trop. Pourtant. Vous voyez, il y a encore une fois, ne serait-ce que par rapport aux malades mentaux, on considère les malades mentaux comme dangereux, alors qu'en fait,
je parlais,
ils ne sont pas plus dangereux.
Non, mais je ne parlais pas de ça en l'occurrence. Je parlais par rapport à ce problème de vue. Est-ce que vous ne vous êtes pas mis vous-même quelquefois en faisant semblant dans des situations dangereuses ? C'était ça ma question.
Non, je ne pense pas. Écoutez, avec le recul, j'ai travaillé plus de 30 ans en psychiatrie et je trouve que le fait de justement ne pas bien voir et ne pas percevoir les détails qui pourraient être interprétés comme dangereux, m'ont plutôt mis en situation de réagir tranquillement, sans surinterpréter le danger, alors que c'était que des détails qui pouvaient être effectués. Mais un détail n'est pas en lui-même suffisant pour déterminer une situation. Vous voyez ?
Et aujourd'hui, Christian, votre vie, alors, elle ressemble à quoi ?
C'est tout le paradoxe. Tant que j'ai dissimulé mon handicap, j'ai réussi tant bien que mal, parce que c'est épuisant au niveau énergie. Vous êtes obligé de compenser ce que vous voyez pas par plein d'adaptations, par plein de chemins détournés qui vous prennent une énergie folle. Par exemple, mes permis de conduire, j'ai eu mes permis de conduire, mais de justesse. Et parce que je n'ai pas dit que j'étais malvoyant et parce que j'ai eu la chance de pas qu'on me demande de ne pas lire un numéro d'immatriculation le jour du permis de conduire.
Vous avez slalomé finalement toute votre vie ?
J'étais sur le fil. Oui, j'avais un pied dans le handicap et j'étais à la frontière. J'avais un pied d'un côté et un pied de l'autre. J'étais sans arrêt marché sur le fil. C'est épuisant parce que vous n'avancez pas vite.
Et donc aujourd'hui
Aujourd'hui, c'est catastrophique parce que depuis que j'ai annoncé, depuis que j'ai décidé de dire les choses, c'est-à-dire d'afficher mon handicap au grand jour, ça a été la catastrophe, ça a été la dégringolade, tout s'est écroulé. Hein. C'est quand même assez. Je trouve pas que le handicap, ça soit. Soit on s'identifie, on dit voilà, je suis handicapé d'emblée, et à ce moment-là, on galère. Si je compare avec mon milieu familial, tous mes cousins qui avaient une rétine pigmentaire, mon cousin aîné, il avait d'emblée, il n'a jamais eu de travail. Il a fini par avoir un travail au bout de 10 ans de chômage sur un poste aménagé à l'EDF.
Vous êtes nombreux dans la famille à souffrir de ça ?
Un sur deux, c'est une rétine pigmentaire liée au chromosome X, et donc les garçons sont atteints. Donc ça fait une chance sur deux, 50%.
Et votre père avait ça ?
Non, non, du tout. Non. C'est les femmes qui transmettent et c'est les garçons qui sont atteints.
D'accord.
Et donc, dans mes cousins, Germain, eux, ils ont eu, les deux garçons ont été atteints par la tinnitus. Et moi, dans ma famille, il n'y a que deux garçons sur quatre qui ont été atteints. Statistiquement, c'est 1 sur 2. Quoi. On a 50% de chance d'avoir...
Et on parle beaucoup de travail, mais si je peux me permettre ici une question un peu plus intime, comment ça s'est passé avec les femmes pendant toutes ces années ?
Comment dire ça ? La deuxième, j'ai divorcé deux fois, et la deuxième, quand j'ai annoncé que au niveau professionnel, ça a été également un divorce suite à ça, en fait.
Alors, j'ai reformulé ma question, je me demandais simplement, les premiers moments quand vous rencontriez une femme, parce que là, c'est compliqué de faire semblant de la voir vraiment. Vous ne perceviez pas les détails de son visage, par exemple ? Vous faisiez semblant ?
Faut pas exagérer, non, vous exagérez.
Je vous pose la question,
Là, là encore, vous êtes dans le tout ou rien. Non, c'est un handicap visuel, dans le handicap, c'est pas tout ou rien. On perçoit des choses, ou alors, par exemple, moi, je percevais des choses en fonction de l'éclairage.
D'accord, c'est ça que je vous demande, c'est comment vous avez abordé les choses de ce côté-là, à votre manière, à vous.
Comment je l'ai abordé? Par exemple, la couleur des yeux, c'est vrai que j'avais dit, je ne voyais pas la couleur de ses yeux. C'est des choses comme ça, mais je voyais bien la forme générale, je voyais bien le volume, je voyais bien le... vous voyez, c'est par exemple, oui, mais non, les couleurs des yeux, c'est elle qui me disait quelle couleur étaient ses yeux. Mais une fois qu'elle me l'a dit, elle ne sait pas que je ne vois pas la couleur de ses yeux. Vous ne savez pas, vous...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous me racontiez que au travail, vous ne l'avez jamais dit. Dans vos relations amoureuses, non. Vous l'avez annoncé tout de suite ? Ou presque ?
Non, pas tout de suite, assez rapidement. Enfin, de toute façon, j'étais myope, si vous voulez, parce que j'avais un problème de rétine, mais j'avais également un problème de forte myopie. Donc, les gens, ils attribuaient à ma forte myopie mes difficultés visuelles, et non pas à mon problème de rétine, parce que ma rétine, ils ne la voient pas, et ils ne savent pas ce que j'ai comme problème de rétine.
Et est-ce qu'il est arrivé que vous soyez rejeté une fois que vous l'avez... annoncer un peu plus clair. Non, ça non, ce côté-là, non.
Non. Après, des conséquences. Par exemple, je pense que pour mon deuxième divorce, c'est le fait que je sois en longue maladie, que je sois à demi-traitement, donc à demi-salaire, ça devenait... l'argent étant, je pense, ce qui était plus important pour ma seconde...
Ça, c'est un autre souci, ça.
C'est un autre souci, mais c'est lié.
Oui.
Mais je peux vous raconter une autre anecdote qui m'a beaucoup amusé. Un jour dans le, parce que ça peut être pris. Un jour dans le couloir, il y avait une entrée. Et puis on attendait l'interne de garde. Il y avait une réunion d'équipe. Et donc moi j'étais dans le couloir près de la chambre. Et puis, donc j'aperçois au loin un médecin avec une blouse blanche. Et je dis, tiens, voilà l'interne. Et donc, sauf que c'était pas l'interne, c'était un praticien hospitalier qui arrivait à la réunion. Et donc, elle avait entendu que je disais, tiens, voilà l'interne. Donc, elle était contente, elle se rengorgeait parce qu'elle était valorisée, parce qu'elle avait un certain âge.
Et le
fait que je la prenne pour l'interne, elle avait pris ça pour un compliment.
Vous voyez qu'il y a du positif quelquefois aussi.
C'est ça que mon témoignage, je voulais dire. Voilà, c'est le côté que les choses peuvent être également très... vous voyez, c'est une même chose peut être à la fois... positive et négative. Enfin, il y a deux aspects, comme dans la dialectique, une pièce a un côté pile et un côté face. Et c'est jamais que il y a un côté négatif et il y a un côté positif, finalement.
Dites-moi quand même, vous avez rencontré des gens formidables dans votre vie, c'est arrivé aussi ? Il n'y a pas eu que des gens négatifs ou des gens qui vous ont rejeté ou maltraité ?
Ah non. En psychiatrie, c'est à la fois des patients. Je trouve que c'est... Peut-être que c'est avec les patients que j'ai rencontré les gens les plus formidables, c'est parmi les malades mentaux.
Il paraît qu'il y a des relations très fortes qui se nouent dans ces moments-là.
Justement, oui, tout à fait. Voilà, surtout que moi, je suis un vieux, puisque je suis rentré dans les années, à la fin des années 70, je suis rentré en 79 en psychiatrie. Et c'était encore l'époque où il y avait des collègues. J'ai côtoyé des collègues formidables parce que c'était l'époque où les femmes ne travaillaient pas dans les pavillons d'hommes. Et c'était l'époque où elles avaient commencé, elles avaient réussi à obtenir la mixité dans les unités, que ce soit parmi les patients ou parmi le personnel. C'était des femmes assez formidables, alors qu'au fur et à mesure que les décennies ont passé, c'était tout le contraire. Vous voyez, il y a eu dans les après 68, je pense que c'était après 68, les femmes ont également, dans le milieu psychiatrique, réussi comment dire, à dépasser les, le côté violent. Donc il y avait des unités d'hommes et des unités de femmes, c'était séparé. Et la mixité est venue dans les années 70-80.
Oui.
C'est venu tardivement. Vous voyez, on avait peur que les femmes se... Alors qu'en fait, non. En psychiatrie, les femmes sont tout à fait aptes à désamorcer des situations de violence, parce que justement, des hommes n'ont pas envie obligatoirement de frapper chez des femmes. Ils pourraient frapper parce que c'est des hommes, mais pas... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, peut-être, oui, oui, bien sûr.
Il y a des situations où le fait que ce soit une femme en
ça
face
apaise,
de vous...
Ça apaise, oui, bien sûr. Ça,
non, on n'a pas envie de se bagarrer avec une femme parce qu'elle n'est pas à la hauteur. C'est un côté abouti, comme vous dites, apaisant. Mais c'est, alors que quand c'est un homme, on veut rivaliser, on veut se mesurer.
Il y a un côté instinctif qui ressort, qui remonte, ouais.
Ah bah oui, voilà, ça a été fréquemment sur des choses comme ça. D'ailleurs, pour revenir à l'anecdote de ma collègue, le gars qui avait le couteau qui était alcoolisé, il n'a pas voulu me donner le couteau à moi. Il a dit, le couteau, je le donnerai, mais à votre collègue.
Ah ouais.
Voilà, il ne voulait pas le donner à un homme, il voulait le donner à une femme.
Alors, Christian, pour en revenir à votre discours sur tout ce qui est négatif, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens pour que ça devienne un peu positif, tout ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ?
Faudrait
un peu de tolérance de...
Non, pas de la tolérance, qui se fatigue un peu à essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il y ait une ouverture d'esprit. Non pas, parce que vous voyez, moi maintenant, je suis davantage handicapé. Donc, ce qu'ils aiment bien, c'est le handicap, c'est on met tous les handicapés dans le même sac et on les met dans une place bien précise. Par exemple, je vais dans le bus. Les gens voudraient que je m'assoie parce que je suis handicapé. Alors qu'en fait, je tiens très bien. J'ai un handicap moteur.
Je vois pas le rapport, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais non, mais c'est ça. Les gens, c'est voilà, j'arrive quelque part.
Vous
le métro.
Quand même, voilà, comme ça on est.
Voilà, c'est-à-dire que les handicapés, tous les handicapés sont dans le même sac et on les met au même endroit. Vous voyez, il y a une place réservée handicapés. Pof, on les met là. Alors qu'il y a des places qui sont pour les handicapés moteurs. Vous voyez, je suis pas handicapé moteur.
On en revient à ce qu'on disait, c'est l'inconnu et la bêtise, quoi.
Ben voilà, et quand je dis bêtise, moi c'est la fermeture d'esprit, c'est par rapport à l'ouverture d'esprit. Non, handicapé, j'adore, moi c'est par exemple l'ascenseur, par exemple, c'est les gens ils veulent me faire prendre l'ascenseur alors que moi je prends les escaliers, ne serait-ce que pour faire un peu d'exercice.
On veut vous obliger à rester assis et à prendre l'ascenseur quoi qu'il arrive. Quoi.
Voilà, alors que c'est pas du tout.
Ça n'a aucun rapport.
C'est pas du tout ce qui me convient. Mais c'est ça. Mais je suis handicapé. Mais les gens cherchent pas à savoir davantage. C'est handicapé. C'est ascenseur. C'est assis là.
L'anecdote vous fait sourire parce que vous avez de l'humour, mais c'est vrai que c'est révélateur quand même d'un sacré problème.
Voilà. Voilà. Ou alors les gens vous accrochent le bras. Là, c'est aussi ça, c'est fréquent pour les non-voyants. C'est que les gens vous attrapent le bras comme si vous étiez interpellé par un policier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vous prennent le bras et ils vous arrachent pas le bras, mais ils vous propulsent. Vous voyez, c'est pour vous guider, alors que c'est pas du tout ça qu'on souhaite.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, Christian.
Ah bah exactement, tout à fait, c'est bien ça. Mais la difficulté, c'est ça. Quand vous avez quelqu'un face à vous, enfin en tant que psychologue, je pense que c'est ce que vous avez appris à faire, c'est vous chercher à comprendre quels sont
son mode de fonctionnement.
Et ben voilà. Et donc c'est pour les handicapés, c'est pareil. Quand on n'est pas handicapé, il faut qu'on essaye d'avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre quelles sont ses difficultés et quelles sont ses attentes.
Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et je crois que souvent, des gens ont peur de poser des questions, alors qu'il n'y a aucune honte à poser une question, à dire comme un enfant, en fait. Moi, je ne sais pas ce que tu as, explique-moi ce dont tu as besoin. Voilà.
Se mettre à la hauteur, au niveau d'un enfant, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Vous voyez, c'est valable ça dans les EHPAD, c'est valable partout ça. Je disais, quand j'ai travaillé en psychiatrie, j'avais commencé par faire une fac de psycho et j'étais curieux, donc j'allais au cours d'ethnologie, et c'est vrai que j'ai envie de dire, il faudrait avoir un regard d'ethnologue ou d'anthropologue.
C'est une belle image. Ce sera le mot de la fin, Christian. Ce sera le mot de la fin, on va être obligé de se quitter, il y a les infos qui arrivent.
D'accord.
Merci pour ce témoignage intéressant. Et le mot de la fin, si vous le permettez pour moi, ce sera « je vous embrasse et ouvrons-nous les uns aux autres et posons les bonnes questions. Intéressons-nous vraiment à l'autre. »
Voilà, intéressez vraiment, c'est ça, c'est exactement ça.
Je me permets de vous embrasser, Christian.
Merci, c'est gentil.
Merci de votre appel et de votre beau témoignage.
Bonne soirée.
Merci, au revoir. Vous écoutez Europe 1 ? Il est pile minuit. Et c'est Sophie Dussault qu'on retrouve pour un dernier point sur l'actu. Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le mea culpa des otages français de retour à Paris. Faible participation à l'acte 26 des Gilets jaunes et puis la décision du médecin de Vincent Lambert d'arrêter les traitements de son patient.
Europe 1.
Une cérémonie très sobre pour accueillir les anciens otages enlevés au Bénin. Les deux Français, Patrick Pic et Laurent Lassimouyas, ainsi que la ressortissante sud-coréenne, ont été accueillis par Emmanuel Macron à leur descente d'avion sur la base de Villacoublay, près de Paris. Et l'un des otages, Laurent Lassimouyas, a fait un mea culpa sur leur présence dans une zone déconseillée.
Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs essentielles de la République. Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Nous avons également une pensée émue pour notre chauffeur-guide béninois, lâchement assassiné lors de notre enlèvement. Nous remercions la France, son armée et les services de l'État pour son professionnalisme et son humanité. Nous espérons que toute cette violence cessera au profit d'un monde plus fraternel qui essayera enfin de mieux se comprendre.
À Laurent Lassimouyas, un des deux anciens otages français, les corps de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux soldats français tués lors de l'opération Commando pour les libérer, seront rapatriés ce dimanche en France. Un hommage national leur sera rendu mardi aux Invalides. Et à la suite de la mort des deux militaires et de la libération des deux Français, Jean-Yves Le Drian était ce samedi l'invité d'Europe 1. Le ministre des Affaires étrangères a appelé les touristes à respecter les consignes du Quai d'Orsay. Le mouvement des Gilets jaunes continue de s'essouffler. La participation touche un nouveau plus bas, 18 600 manifestants recensés durant cet acte 26 ce samedi au niveau national, 1200 à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les Gilets jaunes ont comptabilisé plus de 37 000 manifestants. Du côté des défilés, des heurts à Nantes où 26 personnes ont été interpellées, détention également à Lyon, les deux noyaux durs de cette journée. Ailleurs, les défilés se sont déroulés dans le calme, y compris à Paris. Convaincre à deux semaines des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon et ses alliés de la gauche radicale européenne ont plaidé en meeting à Marseille cet après-midi pour une sortie des traités européens. Autre meeting, celui de Nathalie Loiseau, tête de liste La République en marche à Strasbourg, soutenue par Édouard Philippe et Jean-Pierre Raffarin. Il est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Vincent Lambert, aujourd'hui âgé de 48 ans, est plongé depuis 2008 dans un état végétatif à la suite d'un accident de la route qui l'a rendu tétraplégique. Depuis 6 ans, sa famille se livre une bataille judiciaire sur son maintien en vie. Et il y a deux semaines, le Conseil d'État avait conclu que les conditions étaient réunies pour l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle. Aujourd'hui, son médecin traitant annonce qu'il arrêtera les traitements la semaine du 20 mai. Une nouvelle accueillie dans la douleur par la mère de Vincent Lambert. Écoutez son avocat, maître Jérôme Triomphe.
Elle reste confiante parce qu'elle sait que nous allons nous battre pour que soient respectées ces mesures provisoires. Sa réaction, c'est évidemment d'être catastrophée et atterrée, mais j'espère que les uns et les autres qui m'interrogent sont attentifs à la parole donnée de la France, parce que en l'espèce, c'est un déshonneur que la France impose à chacun de ses citoyens. La parole internationale de la France, les engagements internationaux de la France n'ont plus aucune valeur. Voilà ce que vient nous dire la France par l'annonce de cette décision. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui on se précipite et on dise qu'il y a urgence à euthanasier Vincent Lambert, alors que je rappelle que jour pour jour, cela fait 6 ans que Vincent a été sauvé par un juge des référés, alors qu'il était sans alimentation et avec une hydratation réduite au minimum depuis 31 jours.
Maître Jérôme Triomphe répondait à Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Le football, 36e journée de Ligue 1, Paris renoue avec la victoire et bat Angers 2 buts à 1. Monaco, en mauvaise position, flirte avec la zone rouge. Après sa défaite 1-0 face à Nîmes, les Monégasques qui sont à égalité de points avec le 18e Caen qui a battu Reims 3 buts à 2. À la météo, une amélioration dans le ciel, Valérie Darmon.
Et oui, grâce à la formation d'un anticyclone qui s'étend demain sur les îles britanniques, un temps plus calme s'installe
s'imposera. Le temps de demain n'a donc plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui, sauf pour les températures encore plus fraîches, notamment demain matin, avec des minimales entre 2 à Charleville et 12 à Nice. Et l'après-midi, des maximales qui sont en baisse aussi, entre 12 à Langres et 23 à Montpellier. À Paris, il fera 16 degrés, exactement comme aujourd'hui. Côté ciel, en revanche, sont au soleil un maximum de régions, c'est-à-dire les Hauts-de-France, la région parisienne, la région centre, le Limousin, toute la vallée de la Garonne, la Bretagne, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, grand soleil d'ailleurs, le long de la Manche jusque sur le bassin parisien, et sont sous la pluie toutes les régions placées sur les frontières de l'Est de la France, avec de la neige aussi au-dessus de 1200 mètres. J'accepte toujours le bassin méditerranéen, même si le vent y souffle très très fort. Tout de même, soyez prudents, à 100 km/h pour le Mistral, en basse vallée du Rhône.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Encore ensemble jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne. N'hésitez pas à continuer à nous appeler pour prendre la parole. Jusqu'au bout de l'émission, vous faites le 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir. 3921 pour nous appeler par le standard. 739-21 en commençant par le mot nuit pour interagir par SMS. Vos SMS, toujours proposer des questions à la personne qui intervient pour apporter une idée. Un mot gentil, un mot de soutien ou même pour demander à rentrer en contact. Et puis toujours les mails, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et je vais faire maintenant la connaissance de Marie-France. Bonsoir à vous Marie-France.
Bonsoir Sabine.
Merci d'avoir votre appel.
Oui, je tenais à vous remercier déjà pour commencer de votre émission du week-end. Pour les citations que vous évoquez et pour tout ce que vous dites et comment vous réconfortez les personnes et vous conseillez les personnes qui vous appellent.
C'est gentil de me le dire, merci beaucoup.
C'est sincère, en tout cas. Voilà.
Merci,
et je voulais aussi dire bon courage à Christian qui est passé avant moi et qui a, c'est vrai, beaucoup d'humour.
Oui, il est formidable.
J'en ai aussi. J'ai 66 ans, j'en ai aussi. Parce que je pense que cela aide à relativiser beaucoup de nos tristes soucis personnels.
Alors racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive là. Une histoire de voisinage, voilà. C'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai été agressée le 26 avril dernier. Je revenais chez le médecin, j'étais en train de regarder ma boîte aux lettres. Il n'y avait rien dedans, enfin peu importe, je l'ai refermée. Et j'allais pour prendre la montée d'escalier et... Ma voisine du troisième étage, je ne l'ai pas entendue arriver. Et elle m'a poussée dans le dos.
Qui est une femme de quel âge?
Oh, je ne sais pas son âge, une quarantaine d'années. 40,
oui. Enfin, à peu près, quoi, la fourchette.
Oui, à peu près, 40-45 ans, elle a 3 enfants en bas âge.
D'accord.
Enfin, de 9 à 2 ans.
Elle vous a volontairement poussée, c'est ça?
Oui, j'ose pas vous répéter les termes qu'elle m'a dit. C'est vulgaire.
Oui.
C'est des mots d'oiseau.
Donc elle vous est tombée dessus en étant violente physiquement et verbalement?
Oui, je vais vous le dire quand même. Excusez-moi les autres personnes qui écoutent. Je voulais te casser la gueule et ben j'ai réussi.
Mais qu'est-ce qui lui a pris?
Ah ben je sais pas. C'est-à-dire qu'elle m'a dit après, enfin le lendemain, non le surlendemain, parce qu'elle a aussi agressé ma fille cadette, qui venait chercher mes petites filles chez moi, ses filles, de 13 mois et 6 ans. Bon, pour en revenir à la première agression, elle m'a donc poussée, je suis tombée genoux par terre sur le carrelage. Et puis, bah, elle m'a laissée. Hein. Elle m'a dit, j'ai réussi.
C'est malin, et puis, ça. Bon, vous êtes fait ça fait très très mal, ça, en plus. Hein.
Bah, oui, disant que j'avais déjà, à mon âge, je travaille toujours. Hein. C'est moi qui veux. Je suis cadre de santé adjointe en néonatologie à l'hôpital de en Saône-et-Loire. Voilà. Mm-hmm. Donc, je commence à 6h30 demain matin. Tout à l'heure. Donc, c'est pas grave,
donc,
je dors
donc,
peu.
Donc le réveil sonne à quoi, à 5h?
À 5h30, oui.
Oui, c'est ça.
C'est pas grave, je dormirai l'après-midi.
Non, mais je commence à comprendre le problème qui doit se passer, c'est que j'imagine que cette voisine est bruyante, ou ses enfants sont bruyants, c'est ça?
Oui. J'ai fait un signalement hier au 119, parce que je ne supporte pas. Je vois rouge, comme on dit familièrement. On ne touche pas aux enfants de 0 à 18 ans, voire après, mais après ils sont majeurs. Voilà.
Mais que je comprenne bien, quel est le problème à la base avec cette voisine?
Alors, elle m'a interpellée, je sortais de ma voiture, il y avait ses enfants, ses trois jeunes enfants de 9 à 2 ans, tous les trois, qui tournaient autour des voitures sur le parking. Ils étaient avec la clé de voiture, je pense, oui, c'est la clé de voiture de leur maman, et ils rayaient les voitures. Donc je leur ai dit ne pas faire ça. C'était pas bien, il fallait pas le faire. Mmh. Et elle est arrivée sur ses entrefaites. Et elle m'a hurlé dessus, pour pas me dire un gros mot, en me disant vous touchez, qu'est-ce que vous faites à, qu'est-ce que vous dites à mes enfants? Donc j'ai expliqué calmement, mais une furie, on peut pas dire autrement. Elle m'a redit des noms d'oiseaux, j'ai rien répondu, parce que c'est pas la peine de mettre lui sur le feu dans ce cas-là. Je suis rentrée chez moi, puis elle est partie.
Mais les enfants, vous les avez interpellés sur quel ton?
Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, qu'est-ce que vous faites tous les trois dehors, déjà tout seul? Et d'une. Mmh. Et de deux, qu'est-ce que vous faites autour des voitures avec cette... C'est une clé que vous avez dans la main, c'était le plus grand. Il me dit, oui, c'est la clé de la voiture de ma maman. Ben, j'ai dit, oui, mais vous êtes en train de rayer les voitures. Il m'a dit, non. Mais j'étais rayée. Après, il y a deux autres dames de mon immeuble qui m'en ont parlé.
Et donc, c'est là que le conflit a débuté entre elles et vous?
Voilà. Et puis, ils ont jeté, après coup, des petits cailloux. Là, dans le hall d'entrée, là, il y a des plantes et des petits cailloux, vous savez, qu'on met par ma fenêtre ouverte dans mon salon. Donc, c'est pareil, là, je leur ai dit, j'ai fermé ma fenêtre, mais avant, je leur ai dit, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais je dis que c'est pas de leur faute, ils sont mal éduqués, c'est tout.
Et avec elle, vous n'arrivez pas à avoir le moindre dialogue?
Aucun.
Non.
Il y a 18 mois, elle était en pleurs, je l'ai trouvée en pleurs, mais à gros sanglots dans la montée d'escalier. Parce que là, maintenant, elle me tutoie. On a 20 ans ou 25 ans d'écart, elle me tutoie. Alors je lui ai déjà dit de ne pas me tutoyer. Elle a dit qu'elle s'en fichait, elle faisait ce qu'elle voulait. Il y a 18 mois, elle est venue pleurer, donc je l'ai accueillie chez moi, parce que je lui ai dit, on ne discute pas dans la montée d'escalier, ça regarde personne. Si vous voulez vous confier, entrez, je vous ouvre ma porte, ce que j'ai fait. Je l'ai fait asseoir, allongée sur mon canapé, parce qu'elle tremblait comme une feuille, et elle pleurait un gros sanglot. Je lui ai dit, il faut vous calmer, calmez-vous.
Pourquoi elle pleurait comme ça?
Eh bien, figurez-vous qu'elle m'a dit... déjà, bon, elle cherchait du travail. Je sais pas faire les CV. Alors j'ai dit, moi, ma fille, elle est assistante du DRH chez les sapeurs-pompiers à Lyon. Elle m'a fait un CV parce que à l'époque, je travaillais à l'ASE, donc je cherchais à changer de travail. Elle m'avait fait mon CV. Donc j'ai dit, ça n'a pas un problème, on va pouvoir vous aider. J'ai dit, de toute façon, il faut aller à Pôle emploi là-bas, ils vont vous aider à faire votre CV. Elle m'a dit, je veux pas aller à Pôle emploi. Donc j'ai réussi à la calmer, je lui ai proposé un café, elle ne voulait pas, c'était en fin de matinée, vers 11h. De l'eau, elle ne voulait pas, je dis j'ai du jus de fruits, alors oui, un verre de jus de fruits frais. Donc j'ai réussi à la calmer, et vous savez, alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, je ne mange plus, je ne dors plus, je suis certaine, à peu près certaine que mon mari me trompe. Ah. Je dis, ah bon? Elle me dit, il a une maîtresse. Ah. Oui. Elle me dit, Odile, elle m'a dit son prénom à l'époque, mais je l'ai oublié depuis. Elle m'a dit, Marie-France, pardon, j'ai un service à vous demander. Ben, j'ai dit, si je peux vous le rendre volontiers, de quoi il s'agit. Elle m'a dit, Je suis persuadée qu'il a une maîtresse. Il ne me touche plus, enfin, je vous passe les détails, etc. Si je le suis avec ma voiture, il va reconnaître ma voiture, je veux savoir ce qui y va, quelle est cette je pars sur
le terme. Elle vous a demandé de le suivre vous-même?
Oui.
Ah, c'est, ouais, elle m'a demandé, c'est pas rien comme service.
Comment?
C'est pas rien comme service avec une inconnue. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas une amie proche.
Non, j'ai dit là, tel prénom, je ne peux pas vous rendre ce service, c'est impossible. Engager un détective privé, c'est pas mon métier. Prenez un détective. Ah mais oui, mais ça coûte cher. J'ai dit, écoutez, moi, en 1994, j'ai connu ça avec mon ex-mari. J'ai engagé un détective privé. On va vous aider. Vous avez des aides à la Mavit, etc. Je sais pas. Voilà.
Oui.
Oh, ben, elle a pas compris que je vais pas l'aider. Et depuis, ben, elle me parlait plus déjà. Elle me disait, je disais bonjour la première, elle me répondait pas. Donc j'en ai parlé à une de mes collègues, enfin à la cadre de santé en titre, et elle m'a dit ne lui dis plus bonjour, hein, ignore-la quoi, parce que ça va remettre.
Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va en reparler.
Oui.
Aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, comment ça se passe tous les jours?
Eh ben j'ai peur de sortir quoi et de rentrer chez moi. Je suis quand même allée sur les conseils d'une amie au commissariat de police. Pas sur mon médecin traitant, parce que je dormais plus, j'avais mal partout. Enfin, donc, je suis allée chez mon médecin traitant. Elle m'a fait un certificat médical avec une ITT de 8 jours pour lombalgie droite, forte douleur dans les deux genoux. Elle m'a fait passer des radios. Donc, il y a un problème rotulien. Je n'y connais pas trop, moi, chez les adultes, mais bon. Et entorse la cheville gauche. Ah ben, elle m'a pas ratée.
En même temps, j'aurais tendance à vous dire, Marie-France, ne vous trompez pas de combat.
Oui.
Il y a deux possibilités. Soit vous voulez rester dans la peur et avoir raison, entre guillemets, c'est-à-dire en garder ce positionnement d'ennemi à ennemi, oui. Et votre vie va être invivable. Vous pouvez porter plainte contre elle, c'est un cauchemar.
Oui,
mais
exactement.
Maintenant, si on se permet de prendre un peu de recul et qu'on enlève l'émotionnel... Cette jeune femme, elle va mal. Elle est en larmes, oui, dans l'escalier. Elle a probablement des relations très compliquées avec son mari. Elle est fatiguée.
Oui, parce qu'il est revenu.
Et vous, je suis persuadée qu'avec vos horaires décalés et le travail que vous faites, vous êtes fatiguée aussi.
Je suis à bout.
Ça s'entend. Et donc, quand on est en horaires décalés, quand on fait un travail comme le vôtre qui demande tellement, et quand on est crevé comme ça, on n'a pas forcément non plus le bon recul par rapport aux choses, aux situations. Oui. Ça peut prendre des proportions démesurées. Comment imaginez, enfin, voyez la différence, comment vous vous sentez quand vous êtes morte de trouille. Pardon, je parle un peu comme
oui,
vous, mais
non,
voilà.
Non, mais oui,
c'est mon côté cash. Quand vous êtes j'ai comme peur. Ça en sortant de chez vous, et à l'inverse, quand vous lui avez proposé de lui offrir un jus de fruits, c'était quand même plus apaisant et plus apaisé comme sensation.
Mais vous savez, ma maman qui est décédée en 1998, mes parents me manquent énormément. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la loi de la vie. C'est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est de perdre un enfant. Ses parents, c'est dans l'ordre des choses, je dis. Mais bon, elle disait, bon et bête, ça commence par la même lettre.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que... C'est ce que mon médecin traitant m'a dit. Elle m'a dit, Odile, mais vous arrêtez pas d'aider les autres, vos amis, votre famille. Ma fille a fait une dépression postpartum l'année dernière, elle est à peine remise. Donc, j'ai dit, c'est ma nature, quoi. J'y peux rien.
Ça, c'est plutôt bien. Moi, je trouve ça plutôt positif. Simplement, là, sur cette histoire-là avec elle, vous avez deux options. Je vous dis, soit vous gardez... J'allais dire, soyez plus intelligente qu'elle.
Oui.
Entretenir le conflit, rester dans la peur, c'est vous pourrir la vie à vous-même, de toute façon, en premier.
Ah ben oui,
Gardez des distances saines, mais essayez quand même de rétablir la paix. Peu de paix. Allez, elle va aussi mal que vous. Vous l'exprimez par la fatigue, elle l'exprime par l'agressivité, mais elle va pas bien,
oui,
cette jeune femme.
Non, non, mais je sais, parce que quand il y a 18 mois, là, je voulais parler de ce qui s'est passé, après je l'ai revue quelques fois dans la montée d'escalier, je lui demandais comment vous allez. Bon, elle pleure, elle s'est mise. Je dis, je veux pas vous faire pleurer. Elle me dit, mais ça va pas du tout, il est parti.
Ça se sent. Essayez peut-être de lui tendre la main en lui disant écoutez ou écoute, comme pourquoi pas la tutoyer finalement.
Non, je ne peux pas la tutoyer, c'est hors de...
Alors vous voyez, mais simplement dites-lui écoutez, on va prendre un café, parlons-nous.
C'est pas possible.
Pourquoi?
Elle m'a ragressé une deuxième fois le 7 mai dernier.
En faisant après l'histoire des genoux?
Oui.
En faisant quoi?
Eh ben, c'est-à-dire que je parlais, j'ai plus le droit de parler à mes voisines, d'après elles. Je discutais avec une personne dans deux bâtiments plus loin, qui est handicapée, j'aime pas ce terme, en situation de handicap. Mmh. Elle a fait un AVC, bon, elle est restée très handicapée. Et je discutais, chaque fois qu'elle me voit arriver, s'il fait beau, elle ouvre sa fenêtre de cuisine et elle me aide.
Ah oui, donc vous parliez de loin en loin assez fort.
Non. Oui, relativement, parce qu'elle elle est plus âgée que moi, et moi j'ai un petit problème à l'oreille gauche. Mais tant que j'ai fait faire un test gratuit, là, ils m'ont fait les tests, c'est tout bon, et elle m'a dit, tant que vous entendez votre clignotant, c'est que ça va, vous avez besoin d'être appareillé. Ça m'a fait rire, mais c'est... Bon, c'est pas ça, c'est que avec ma béquille, parce que j'ai eu une attelle pendant 15 jours, donc j'ai été arrêtée, il était 8 jours. Pendant 15 jours, j'ai une attelle, j'allais quand même travailler avec l'attelle. Et puis là, maintenant, j'ai une béquille. Donc, j'ai des béquilles.
Quel rapport avec le fait que vous étiez en train de parler avec la voisine ?
Excusez-moi, oui. J'étais en train de parler, ça durait, donc j'ai pris un peu mal à ma cheville, donc je me suis appuyée. D'habitude, je vais à ma voiture à cet endroit-là. Ce jour-là, il n'y avait pas de place, je me suis garée plus loin. Donc, je me suis appuyée sur la voiture qui était à côté de moi. Et j'ai cru que c'était les pompiers, la dame aussi, là, ma voisine à qui je parlais. En fait, c'est une alarme. Ils ont un espèce d'espace ou je ne sais pas quoi.
Ah oui, vous l'avez déclenché l'alarme.
Ça s'est
mis
à hurler.
Ah bah oui.
Ah bah oui, j'ai déclenché l'alarme. Alors, je me suis vite retirée. Mais elle vit tout. Elle était à sa fenêtre du troisième étage. Elle m'a hurlé dessus en disant des noms d'oiseaux à nouveau, je vous passe les termes vulgaires. Et elle m'a dit, attends, je descends, ça va mal se passer. Et au commissariat de police, quand je suis allée déposer plainte la première fois, ils m'ont dit, il y a toujours votre portable à la main, prête à faire le 17, même pour aller à votre boîte aux lettres. Donc je dieute.
Mais là, vous entretenez un climat de peur, de haine, c'est compliqué.
Ah ben oui, mais j'ai peur. Et je vais déménager sur les conseils de mon médecin, du commissariat, des deux policières qui m'ont reçu au commissariat. Je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Elle a agressé ma fille qui venait chercher ses petites chez moi. Je l'ai raccompagnée parce qu'il pleuvait, puis elle avait le lit pliant, enfin, etc., pour un bébé de 13 mois. Il y avait Margot, 6 ans, déjà tout installé dans son siège. Juliette, dans son siège auto, 13 mois, elle nous est arrivée par derrière. Alors, c'est vrai que c'est un emplacement devant le tilleul, là, devant ma porte, ma fenêtre de salon. On n'a pas trop le droit de se garer, mais juste pour venir déposer et reposer, c'est toléré, quoi, je veux dire. On a cru qu'elle arrivait pour ça. Elle est arrivée par derrière moi, en me hurlant dessus, et en hurlant sur ma fille qui a 37 ans, qui est à peine remise de sa dépression postpartum, je précise, c'est important. Quand je lui demande comment vas-tu, elle me dit je vais mieux. Elle me dit pas je vais bien, je vais mieux.
Elle hurlait quoi, la voisine?
Alors, elle hurlait, elle a dit à ma fille, tu es sa fille, à cette connasse. Oh, pardon, je voulais pas dire de grands mots. Ma fille, elle dit pardon. Elle dit oui, voilà, elle a montré un bout de papier à ma fille, ta mère, elle écrit ça. Alors, je sais pas ce que t'as écrit. Ma fille a lu. Elle me le montre. J'ai pas eu le temps de lire. Et puis, ma fille, elle lui dit, mais c'est pas l'écriture de ma maman. Alors, d'une part, mais très calmement, hein. Restez très calme. D'une part, vous ne me tutoyez pas. Vous ne vous connaissez pas. Je ne vous connais pas. Donc, vous ne me tutoyez pas. Elle lui a dit, je fais ce que je veux. Je te tutoie. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis mis un peu à avoir les larmes aux yeux, commencé à verser ma larme. Elle m'a dit, maman, pleure pas. Et Juliette, 13 mois, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle hurlait.
Et depuis ce jour-là, vous l'avez recroisée, la voisine?
Eh ben, le 7 mai, là, qu'elle m'a agressée, parce qu'elle est redescendue, en fait. Donc j'étais en train de dire à ma voisine handicapée, là, je vais rentrer, je veux pas... Je veux pas que ça recommence, mais j'ai pas eu le temps de rentrer. Donc elle m'a attrapée par le bras, elle m'a serré la main gauche très fort, Eh ben, j'ai une plaie à la main gauche, quoi.
Oui, donc là, ça prend des proportions qui sont difficilement gérables. Vous avez porté plainte ou déposé une main courante?
Alors, non, pas de main courante. La police, ils ne veulent pas. Je retourne lundi parce que je vais y aller hier après-midi, mais le docteur Debert, enfin mon médecin traitant, m'a dit reposez-vous, allongez-vous, même si vous ne dormez pas, mais n'allez pas au commissariat cet après-midi, appelez-les, expliquez-leur ce qui s'est repassé. Elle m'a refait un certificat médical avec une ITT de 8 jours à nouveau, et j'y vais lundi matin, j'ai rendez-vous à 9h.
Là, j'ai l'impression que ça prend des proportions, que vous n'allez pas réussir à gérer toute seule.
Ah non, c'est pas possible.
Il n'y a pas de gardien, cet immeuble, il n'y a rien, personne.
Il y a une gardienne qui vient un matin, une matinée par semaine, tous les 15 jours, pardon, pour faire le ménage.
Ouais, c'est pas une gardienne.
Dans tout l'immeuble, ouais. Je crois qu'il y a 4 ou 5, dans la résidence, il y a 4 ou 5 immeubles. Donc elle fait la journée, mais elle est de mèche avec elle. Et avec deux autres voisines, elle se tutoie. Au lieu de faire le ménage, elle discute avec elle une partie de la matinée et puis elle boit le café. Elles vont boire le café les unes chez les autres. Elle se tutoie. Mais ça, je vais le dire. J'ai demandé un rendez-vous au directeur de l'OPAC avant de partir.
Partir, c'est-à-dire que ça y est, le projet est vraiment...
Ah oui, oui. J'ai visité une maison à 25 km de chez moi. Mais mes enfants m'ont dit, maman, ne prends pas ça. L'entretien d'une maison, bon, il y a 4 il y a 3 chambres pour accueillir tout le monde, ça serait sympa, mais toute ma famille, mais il y a de la pelouse à tondre, il y a, vous voyez bien, il y a de l'entretien, le ménage, moi, déjà chez moi, j'arrive pas à faire les vitres correctement. Donc j'ai renoncé. Il a compris, hein, c'est un immobilier de ma con, je peux dire, la ville, que je connais depuis très longtemps. Mm-hmm. Et donc, il m'a dit, j'ai dit, écoutez, je voudrais retourner pas loin de Carrefour. Là, il y en a un Carrefour Marken sur Charnay. Comme ça, j'irai faire mes courses avec mon petit caddie. J'ai comme une miserie de l'essence. Et puis, il m'a dit, ben, j'ai un F2 à vous faire visiter. J'ai dit, avec balcon. Alors, Olivier me dit, ben non, il n'y a pas de balcon. J'ai dit, écoute, ça fait rien. Je vais le visiter. Je veux bien le visiter. Et je vais le visiter mercredi matin.
Oui, donc ça y est, ça avance. Donc, ah ben, finalement, oui. Bon... Finalement, c'est juste une question de patience pour que ça s'arrête, cette tension.
Ben voilà. Non, mais je suis petite. Hein. Je suis de petite taille. Je mesure 1m55. Donc, il y a un œil à ma porte.
C'est la oui, moyenne basse, mais c'est pas minuscule non plus. Hein.
Non, c'est bon. D'accord, je suis d'accord. Mais on m'entend avancer. Et l'œil, le ton, là, qu'il y a dans la porte d'entrée, est trop haut. Je vois pas. Et j'ai eu l'astuce, j'ai un petit banc.
Un petit tabouret en dessous, oui.
Un tout petit banc. Et j'arrive comme ça, et il faut que je marche pieds nus, sinon on m'entend marcher. C'est du lino.
Et vous ne pouvez pas aller habiter chez vos enfants en attendant?
Non, je ne veux pas les embêter avec ça. Et ma fille cadette avait accepté de témoigner, enfin je ne sais pas si on dit comme ça, parce qu'on a fait une main courante au départ, la juriste qui intervient au commissariat de police. Et lundi matin, m'a dit, on commence par une main courante avec, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ils allaient la convoquer, quoi, mm-hmm. cette personne. Et puis, quand j'ai vu le médecin, mon médecin traitant l'après-midi, parce qu'elle n'avait pas pu me recevoir plus tôt, elle m'a dit, c'est hors de question, vu l'état de santé physique que vous êtes et l'état d'anxiété
oui,
dans lequel
compris,
vous...
Oui, vous a dit de vous reposer, voilà. d'y aller.
Elle m'a dit, il faut déposer plainte, il faut porter plainte. C'est pas une main courante. Donc voilà. Donc,
maintenant, on est même plus à essayer de trouver une solution. Ce qu'il faut, c'est que vous partiez. Voilà. Si vous, c'est de la location ou de l'achat, l'appartement?
C'est de la location.
Donc la location, l'avantage, c'est que c'est très rapide.
Oui, mais apparemment, il faut que je retourne regarder mon bail. On me dit que dans les logements sociaux, c'est un mois d'édit. Et moi, je crois bien que j'avais lu à 3 mois.
Ça a changé. Hein. On est dans beaucoup de zones maintenant à un mois.
Oui. Eh ben, voyez.
Vérifiez quand même, mais je sais que maintenant, beaucoup, ce qu'on appelle les zones tendues, c'est un mois. Les logements sociaux, je ne suis pas sûre, mais vérifiez quand même. Avec un peu de chance, vous êtes à un mois. Et je pense qu'en plus, sur raison médicale et vu les circonstances, ça peut être tout à fait défendable.
Tout à fait. J'ai un ami qui est premier adjoint au maire, là, à Charnay. Qui a un ami qui est très bon avocat, un très bon avocat, et il m'a dit il va te défendre, et puis il se fera un prix, parce que je lui ai dit, je pense avoir droit à une aide juridictionnelle, encore pas sûre avec le salaire que j'ai. Donc,
Bon, donc, il y a quand même des perspectives de libération, là, Marie-France. Ça va se calmer.
Comme disait ma maman, sur cette terre, il y a encore des belles et bonnes personnes. C'était son mot, des belles personnes.
Eh ben, les personnes qui sont passées
avant moi, vous, comment ça s'appelle,
Sophie,
toutes les psychologues et les psychiatres qui... Je suis un psychiatre qui va me suivre la semaine d'après, je crois.
Il va falloir travailler sur ça pour vous apaiser un petit peu. Hein.
Parce que vous êtes presque en
état post-traumatique. C'est un petit traumatisme, mais c'est quand même un traumatisme.
Ah oui, puis j'en ai eu d'autres dans ma vie.
Je pense que ça réveille beaucoup de choses et que vous êtes très très fatiguée, donc ça exacerbe l'ensemble.
Je ne peux pas pleurer à l'antenne, mais oui.
Oh, si ça vous fait du bien, allez-y. Vous savez, souvent je compare le cerveau des femmes à une grosse éponge. On absorbe, et à un moment donné, si on ne sort pas tout, on n'arrive plus à fonctionner correctement.
Oui, parce que entre ce qui m'arrive là... ma famille, mes enfants qui vont pas bien, mes filles. Maintenant, c'est ma fille aînée qui est assistante sociale à 20 minutes de chez moi, dans un village, qui craque parce qu'au boulot, elles sont débordées de boulot, les assistantes sociales de secteur.
Ça, je veux bien le croire.
À l'hôpital de Mâcon, il n'y a plus d'assistante sociale dans les services. Enfin, c'est affreux. Quoi. Ça devient infernal. Et je vous dis, ma fille cadette, elle a fait une dépression postpartum de... mi-juillet 2018. Elle va mieux depuis mi-décembre.
Elle va mieux, Marie-France.
Elle a repris son travail parce qu'elle ne se supportait pas à la maison.
Oui, mais maintenant, ça y est, c'est passé, ça va. Je vais vous dire la même chose que je disais tout à l'heure à Sophie. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif.
Oui,
c'est bientôt fini cette histoire-là. Effectivement, je pensais au début qu'il y aurait moyen d'arranger les choses, mais à ce niveau-là, il n'y a plus moyen.
Non,
la décision est prise de partir, prenez ça aussi comme un nouveau départ.
Oui.
Ça fait du bien, changer d'endroit, c'est aussi l'occasion de nettoyer, de dégager tout ce qu'on garde pour rien. Vous savez, tout ce qui nous encombre depuis tellement longtemps.
Oui.
Hein, faire un grand ménage de printemps, amener dans votre nouvel appartement que des choses qui vous plaisent.
Oui.
Et en profiter pour reprendre de l'énergie, dormir et prendre un beau nouveau départ. Hein.
Tout à fait.
Prendre soin de vous et vous entourer de voisins gentils.
Et là, je serai dans le privé, quoi. Je veux dire, je suis allée voir et puis il n'y a pas de pancarte marquée à louer. Donc, je ne vois pas très bien où ça se situe, mais peu importe. Il y a un parc avec des écureuils.
Oh, quelle chance. C'est mon animal préféré, l'écureuil.
Ah oui.
Oh, j'adore ça.
Ma petite voisine d'en face, parce que je donne sur des maisons, un petit lotissement en face. Et la mamie... comment ça s'appelle, Paulette, ses enfants ne viennent pas très souvent la voir. Mais en fait, je la croyais plus âgée que ça. Elle a 56 ans de plus que moi. Elle a perdu son mari il y a 10 ans et elle est solitaire. Quoi. Donc là, je vais l'emmener chez l'ophtalmo. Demain matin, je vais lui acheter du pain parce qu'elle s'est fait mal à un genou en descendant. Allez,
Marie-France, parce que vous me racontez les choses, c'est des tiroirs. On passe de l'écureuil à la baguette de pain et à la jambe. Ça, c'est un peu compliqué à suivre pour moi.
On va rester sur
les écureuils, j'aime bien l'image.
Oui, on va rester sur l'écureuil. Et je voulais juste vous dire qu'il y a un souci avec l'arrêt du coup de vos podcasts sur Europe 1.
Ah.
Parce que j'ai une amie qui vous a appelé le samedi, il y a une quinzaine de jours, je crois.
Mm-hmm.
Elle a voulu réécouter en podcast et que je l'écoute avec elle. Et il y avait toutes les autres dates. Et pas celle du samedi, je sais plus combien.
Ah, il faut taper podcast week-end, normalement. Mais je vais le signaler, je vais demander à ce qu'on vérifie. Vous faites bien de me le dire.
Podcast week-end ?
Oui.
D'accord, je vais le noter.
Marie-France, concentrez-vous sur les belles choses qui arrivent. Libérez-vous de ces ondes nocives et toxiques de cette bonne femme. Hein.
Oui, c'est pas ça.
Pensez à vous, dormez. Dormez, parce que vous faites un métier épuisant. Hein. Et protégez-vous des gens toxiques.
Elle m'a parlé, mon médecin traitant, de l'EMDR.
L'EMDR, c'est une technique de mouvement oculaire pour se remettre un peu des traumatismes. Et je pense qu'elle n'a pas tort.
D'accord. Je vais en parler au psychiatre que je vais voir. S'il ne le fait pas, s'il connaît quelqu'un.
Oui, ça vous ferait du bien.
Parce que je crois qu'il y a des livres aussi là-dessus. Mais...
Non, c'est pas un truc qu'on lit. C'est quelque chose qu'on fait avec un thérapeute.
D'accord.
Ça. C'est une thérapie de mouvement oculaire qui pourrait vous apaiser sur ce traumatisme-là.
Oui.
Vous permettre de remettre un peu ce qu'on appelle remettre les compteurs à zéro.
D'accord,
Marie-France.
Parce que je ne connaissais pas. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous embrasse très très fort.
Oui, moi aussi.
Au revoir.
Bonne fin de soirée, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Il reste le temps d'accueillir Annette. Merci d'avoir patienté. D'abord, bonsoir Annette.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue. Oh, je vous entends mal, dis donc.
Vous m'entendez mieux, là?
Ah, ben voilà, c'est beaucoup mieux.
Voilà, vous m'entendez mieux.
Oui.
Donc, j'étais passée avec vous au mois d'avril, parce que vous m'aviez conseillé de faire les doses, parce que je supportais mal le masque la nuit.
Ah oui, vous aviez des problèmes d'apnée du sommeil.
D'apnée plus d'oxygène.
Et d'oxygène. Et vous aviez un appareil, c'est ça?
Oui. Et en fait, j'ai essayé d'aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais j'arrive pas à ça.
Alors attendez, quelqu'un qui fait de l'hypnose, déjà ça me pose question. Qui? Enfin, est-ce que c'est vraiment un ou une hypnothérapeute?
Alors elle se dit hypnothérapeute, elle est infirmière anesthésiste, et je l'ai trouvée, enfin, moi je suis non-voyante, donc j'ai trouvé un ami qui m'a trouvé ses coordonnées.
Oui.
Et j'ai essayé avec elle, mais j'ai rien... Je sais pas, je...
Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle vous a fait faire comme, comme chemin, comme travail? La séance
Pourquoi elle m'a demandé pourquoi je faisais des cauchemars. Quelle était la cause de ces cauchemars elle m'a demandé tout ça.
Non, ça, je comprends. Ça, c'est la conversation au début. Mais après, pendant la séance, qu'est-ce qu'elle vous a fait faire?
De me concentrer sur... ce que j'avais vécu. Ça, pour moi, c'est comme une relaxation intérieure, en fait.
Bah, c'est un peu, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. Très souvent, c'est une infirmière, c'est ça, vous m'avez dit?
Elle est infirmière anesthésiste, oui.
Oui, les infirmières ou les anesthésistes ou les professionnels de santé font des formations à l'hypnose, mais principalement pour gérer le stress. La douleur et le stress, mais ce ne sont pas vraiment des thérapies. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vous mettent dans un état de relaxation profonde. Ils vous apprennent à vous calmer, à respirer bien, mais ce n'est pas vraiment une thérapie en hypnose.
Oui.
Et vous, de ce que j'ai compris, il y avait quand même vous l'enleviez pendant la nuit, l'appareil, c'est ça, non? Si je me souviens bien.
Moi, au bout d'une heure et demie, je sais qu'après, parce que je regarde ma montre, mais je l'enlève pendant mon sommeil. Oui, quand je me réveille, je ne l'ai plus.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien pour ça que je vous avais parlé d'hypnose, parce que c'est quelque chose que vous faisiez inconsciemment.
Oui.
Et donc, quand on ne fait pas quelque chose volontairement, on ne peut pas faire exprès d'arrêter, puisqu'on n'a pas fait exprès de commencer. D'où l'intérêt de travailler en hypnose. Bon, en l'occurrence, de ce que j'entends, ce n'était pas la bonne personne et pas la bonne technique. Donc, retour à la case départ aujourd'hui, c'est ça?
Oui. Et en EMDR, vous croyez que...
L'EMDR, c'est fait principalement pour travailler sur les traumatismes. Est-ce que vous avez vécu un traumatisme?
Ah, j'ai vécu des traumatismes.
C'est-à-dire?
J'étais battue quand j'étais enfant. Mmh. Plus tard, j'étais violée par mon mari.
D'accord.
Enfin, il est décédé. Après, il y en a eu d'autres, mais bon...
Je vous perds un peu, Annette, là.
Après, il y en a eu d'autres, mais...
Est-ce que ce sont des événements difficiles sur lesquels vous avez travaillé avec un thérapeute?
Je vous avais dit, les psychothérapeutes, ils m'ont aidé à un moment, puis après, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus m'aider, certains d'entre eux. Il y en a une, elle est partie en congé de maternité.
Ah oui, ça me revient. Pardonnez-moi, je ne me souvenais pas spontanément de toute la conversation qu'on a eue il y a 2 mois, mais... Ça me revient maintenant, ce que vous m'avez dit à l'époque, vous avez enchaîné en fait des pas de chance hein, de ce côté-là.
Oui, oui, oui.
Mais je ne suis pas complètement sûre que ce qui se passe avec l'appareil soit lié à un traumatisme. Je ne vois pas bien le lien. Là, tout de suite, ce n'est pas évident comme ça par téléphone, mais je ne suis pas convaincue que le MDR...
Parce que les cauchemars...
Oui.
Excusez-moi. Parce que les cauchemars, en fait... Ça me rappelle mes rêves quand j'étais enfant.
Alors ça je l'entends, mais est-ce que les cauchemars ont un lien avec le fait que vous enlevez l'appareil pendant la nuit?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je ne sais pas, parce que moi, quand je me réveille, j'ai plus l'appareil, et puis
Il y a deux choses, effectivement, de toute façon, ça, vous pourriez tenter le MDR pour voir si ça peut jouer sur les cauchemars. Si ces cauchemars sont liés à des traumatismes qui sont toujours là, parce que vous savez que notre inconscient n'a pas la notion du temps. Hein. Un traumatisme peut être là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, il peut avoir la même puissance. S'il est enfoui quelque part, ça peut vous faire du bien. Au moins sur les cauchemars. Après, sur le fait que vous enleviez l'appareil, je ne suis pas sûre. Ça, c'est un autre... Je ne suis pas sûre que ce soit lié au cauchemar, ça. Est-ce que du côté purement... C'est idiot comme question, mais on ne sait jamais. Du côté purement technique ou mécanique, est-ce que tout se passe bien avec l'appareil? Est-ce que le professionnel de santé qui vous l'a conseillé a vérifié que tout va bien, que ça ne vous fait pas mal, que c'est bien réglé?
Ça me fait un peu mal parce que c'est très serré, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que le masque, il est dans les narines. Il n'est pas sur le visage. Enfin, il est un peu sur le visage, mais l'oxygène, ça va directement dans... Il faut que ça aille directement dans les bronches.
Et c'est ça qui vous fait mal, en fait? C'est l'entrée dans le nez, c'est ça?
Oui.
C'est comme des canules?
Oui, si on veut.
Un petit peu,
oui.
Quel est le médecin qui vous a conseillé ça? C'est un généraliste?
Non, c'est un pneumologue.
Un pneumologue.
Et je vais tous les 3 mois à la clinique.
Est-ce qu'il n'a pas d'autres personnes comme vous qui l'enlèvent la nuit inconsciemment?
Je ne sais pas.
Parce qu'il me semble que ce serait quand même la personne la mieux placée pour vous parler de ce genre de problème. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre d'appareillage et peut-être d'autres qui sont dans la même situation que vous.
Mais quand je me réveille, c'est des rêves violents que j'ai... Alors, est-ce qu'il y a des fuites de l'appareil? Parce que, voilà, je vais vous dire, quand je suis à la clinique, ça m'arrive pas.
Qu'est-ce qui n'arrive pas?
Le masque, il est sur moi, même le matin.
Ah, vous ne l'avez pas enlevé de la nuit, vous ne bougez pas?
Non.
Est-ce qu'à la clinique, vous vous sentez en sécurité?
Peut-être.
Et oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi.
Oui, parce que de toute façon, on m'attache les mains. On met un saturomètre.
Oui, mais attendez, on vous attache les mains quand vous êtes à la clinique?
Enfin, on m'attache les mains. On met des trucs dans les doigts, donc... Mais si vous voulez, je ne fais pas de cauchemars violents comme à la maison.
Oui. Mais là, probablement parce que vous vous sentez en sécurité et entouré, quoi, oui. Ces rêves violents, est-ce que vous vous en souvenez précisément le matin?
Je rêve que je me fais violer à côté de ma mère, que ma mère se fait violer, que je prie pour pas me faire violer, que des rêves
qui tournent autour, ça revient toujours autour de cette agression sexuelle.
Ouais.
Donc là effectivement, en dehors de tout problème de machine, d'appareillage et de sommeil, je pense qu'il y aura un travail à faire en EMDR, effectivement, oui.
Oui.
Ça pourrait vous apporter...
Et c'est quoi l'EMDR?
Alors l'EMDR, c'est un mouvement des doigts. Pour faire simple, si vous voulez, c'est une reprogrammation du cerveau par le mouvement oculaire, qui reproduit volontairement les mêmes mouvements qu'on a pendant le sommeil. Vous savez que pendant le sommeil, pendant qu'il se passe beaucoup de choses, pendant le sommeil, le cerveau travaille,
oui.
Et les yeux bougent la nuit, quand on rêve notamment. Et en fait, on reproduit volontairement, avec des techniques très précises, un mouvement oculaire qui permet de faire une sorte de nettoyage émotionnel. Mais le médecin qui pratiquera ça sur vous expliquera probablement ça avant de commencer la séance. C'est très doux. Vous êtes assise ou un petit peu allongée, plutôt 2/4, en fait, pour être bien confortablement assise en arrière. Vous gardez les yeux ouverts et vous répétez ce que vous dit le médecin et vous suivez ses doigts avec les yeux. À des vitesses différentes, à des rythmes différents.
Mais comment je veux faire pour les suivre, ces doigts?
Vous le faites. C'est intéressant ce que vous me posez comme question, parce que j'ai partagé ça avec une thérapeute cette semaine, on s'est posé la question. On peut le faire mentalement.
Ah, d'accord.
On peut vous demander d'imaginer que vous suivez le mouvement. Eh bien, figurez-vous que ça marche. C'est assez intéressant, j'ai parlé de ça aussi pour l'EFT. L'EFT, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'Emotional Freedom Technique, c'est technique de libération émotionnelle par le toucher, par ce qu'on appelle le tapping. Sur les endroits du corps où on tape entre les yeux, on tapote bien sûr, entre les yeux, sur la main, sur les épaules. Et je posais la question à quelqu'un qui était dans un lit d'hôpital et qui ne pouvait pas trop bouger. Eh bien, on peut aussi faire de l'EFT mentalement. Notre cerveau a cette capacité-là, c'est assez étonnant. Et l'EMDR, on peut vous suggérer d'imaginer que vous regardez à droite, que vous avez ce mouvement, sur le rythme qu'elle vous suggérera verbalement, d'avoir ce mouvement oculaire de gauche à droite. c'est déjà quelque chose qui pourrait vous, vous faire avancer.
Non, mais je vais essayer, hein, de toute façon.
Est-ce qu'on avait discuté la dernière fois de la respiration aussi? Est-ce que vous savez vraiment respirer? Est-ce que vous avez appris à respirer, à vous calmer avec la respiration?
Ben, j'ai appris, mais toute seule, je ne le fais pas vraiment. Ben déjà, avec mes problèmes de respiratoires,
et justement.
Voilà.
Ça va?
Oui, oui.
Ah. Ça serait intéressant peut-être aussi. Est-ce que vous avez déjà fait un peu de sophrologie?
Oui.
Juste pour le calme, il ne s'agit pas de faire de thérapie avec ça, mais simplement apprendre, voyez, à souffler, à vous calmer rien qu'avec ça.
Ah oui.
Parce que vous remarquez vous-même que quand vous êtes effectivement à la clinique, vous êtes en sécurité et du coup il y a beaucoup moins de cauchemars. Je pense que chez vous, on en avait parlé récemment avec quelqu'un aussi qui a eu un grave accident, je ne sais pas si vous avez entendu ça,
qui
ne dormait plus depuis 8 ans ou 9 ans.
Oui.
On a parlé d'un état d'hypervigilance. Et souvent, quand on a été, malheureusement, comme c'est votre cas, agressé, et plusieurs fois, on a une petite partie de soi à l'intérieur qui est en hypervigilance.
D'accord.
Il y a une partie de vous qui n'est pas calme, et pour cause.
Oui.
Non. Donc tout ça, ce sont des techniques qui pourraient vous aider à avancer. Qu'est-ce qui se passe si cette machine, si ça continue comme ça, si vous continuez à l'enlever la machine? Qu'est-ce que vous risquez en fait?
Eh ben de mourir.
Oui, donc les conséquences sont, sont importantes, sont graves évidemment.
C'est-à-dire de mourir parce qu'il y a trop de gaz carbonique dans le sang.
Mmh.
Et je suis à 80%, alors qu'on en, que c'est 40%.
Et vous l'enlevez toutes les nuits quoi qu'il arrive ou il y a quand même des nuits où vous le gardez?
Non, c'est toutes les nuits.
Toutes les nuits, vous l'enlevez. Mais je suis quand même surprise que vous n'ayez pas posé la question un peu de manière...
Vous voulez, je m'endors. Bah oui. Parce que là, le pneumologue, il m'a dit l'autre fois... qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous allez volter. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit de bien mettre là. Si vous voulez, je m'endors avec. Parce que j'ai des médicaments. Mais au bout d'une heure et demie, alors... De où ça vient, de quoi ça vient, de... parce qu'à la clinique, ça m'arrive pas.
Oui, mais vous leur dites bien que chez vous, ça vous arrive.
Je leur dis.
Ah oui. Mais vu la situation, c'est quand même assez urgent. Ça, vous pouvez pas au moins l'avoir au téléphone pour lui demander? J'ai quand même du mal à croire que vous êtes la seule personne en France qui a ce problème-là. Il doit y avoir d'autres personnes qui sont appareillées la nuit et qui l'enlèvent, inconsciemment. Peut-être que ce médecin dont c'est la spécialité a des solutions contre ça.
Oui, je ne sais pas.
En fait, il y a deux axes chez vous. Il y a un côté purement mécanique, il faut trouver un moyen quelconque pour que vous arriviez à garder cet appareillage. Et ça, c'est vraiment votre pneumologue qui peut vous aider. Oui. Et puis, il y a un côté plus psychologique et nerveux, où il faut travailler d'un côté sur le traumatisme, effectivement, tous les traumatismes que vous avez vécu et qui, visiblement, ont laissé des traces. Et puis sur le côté calme, à réapprendre à vous calmer, à vous poser.
Oui.
Hein?
Bah, le pneumologue, il faudrait. Il n'est pas très, très psycho. Je ne sais pas.
Non, mais je pense qu'avec lui, il ne faut pas essayer de voir ce côté-là. Il faut juste essayer de voir la mécanique.
Oui.
Tout bêtement, comment est-ce qu'on peut faire techniquement pour que cette machine ne bouge pas pendant la nuit? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, malheureusement.
Ah non, mais ça, c'était bien.
Ce n'est pas mon domaine. En revanche, c'est le sien. Et je reste persuadée que ce n'est pas la première fois qu'il a un problème comme ça. Après, ne lui demandez pas de comprendre les traumatismes et de comprendre la psychologie. Ce n'est pas son job. Et c'est normal. Mais au moins, s'il peut vous aider sur ce problème mécanique qui est quand même assez grave, vu les conséquences dont vous me parlez, ce serait déjà quand même bien. Et à vous, à côté, d'aller travailler sur un apaisement psychologique.
Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est que si je le mets... l'après-midi à la sieste, je ne fais pas de cauchemar, je le garde 2 heures et là je le garde.
Oui, c'est pas le même sommeil la journée en fait, c'est très différent.
Ah d'accord.
Vous descendez probablement pas aussi profondément que la nuit. Vous faites ça Annette?
Oui.
Hein, demandez-lui de vous aider sur un plan mécanique et pensez à l'EMDR.
Et moi, je... Oui.
et à tout ce qui peut vous apaiser, vous rassurer.
Oui.
D'accord ?
D'accord, Sabine.
Je vous embrasse. Et sinon, mettez ma voix en podcast, il paraît qu'on s'endort avec ma voix.
D'accord.
Plein de gens me le disent.
Oui, c'est vrai, oui.
Je vais vous chanter une berceuse. Non, je ne vais pas faire ça, c'est que je chante comme une casserole. Mais juste entendre ma voix, ça va vous endormir.
Oui, oui, d'accord.
Je vous embrasse.
Moi aussi, Sabine, merci.
Bonne nuit, Annette.
Oui, 23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1.
You make me feel... Aretha Franklin, superbe, sublime voix.